Gatineau, on est toujours à l'épreuve des faits, compagnie de Justin Leblanc. Et là, maintenant, on voit à l'autre bout des îles. On était à Grand Entrée, là, on voit du côté du Havre-Robert, toujours avec Laurence Demioul.
Oui, donc je me questionnais il y a quelques semaines, Justin, à savoir qu'est-ce qui allait se passer du côté de la Seine, donc dans l'ancienne église de Havre-Robert pour cet été. Dans les deux dernières années, on a eu droit à des programmations assez diversifiées. Donc, j'ai contacté le Cirque Éloise et plus précisément le président et cofondateur du Cirque Éloise, Jeannot Pinchot, afin d'avoir à la fois une mise à jour sur les spectacles qui allaient être livrés cet été, mais aussi par rapport au projet de développement au pied des Demoiselles, qui, on le rappelle, a été lancé il y a environ deux ans et demi, savoir qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Donc, premièrement, il y aura un spectacle créé spécialement pour la scène, donc la salle de spectacle, cet été, entre le 26 juillet pour une durée de 4 semaines, le Cabaret du bout du monde. Les billets sont déjà mis en vente, donc inspiration cabaret années 30, inclusion de troupes madeliniennes pour nommer aussi le collectif de clowns Fouti Yayay, des gens qui gravitent autour de l'école de cirque. Donc, ce spectacle sera vraiment à l'honneur cet été, quoi qu'on n'exclue pas d'en rajouter un, mais prenons pour acquis que ce sera celui mis à l'honneur cette fois-ci. Donc, pour discuter du reste, en fait, donc du projet au pied des Demoiselles, je vous propose simplement d'écouter Jeannot Pinchot qui nous annonce officiellement que, faute de financement, le projet est mis sur pause pour une durée indéterminée. Voici Jeannot Pinchot.
Donc, la vision est toujours la même. Cependant, le projet, pour ce qui est de son développement, je parle surtout de construction, décalé de quelques années pour des conditions qui sont hors de notre contrôle, qui sont l'augmentation importante des taux d'intérêt et l'augmentation des coûts de construction. À titre de rappel, le projet au pied des Demoiselles est constitué de deux entités. Il y a le Cirque Éloise qui a donc fait l'acquisition de l'église en échange d'un investissement. Donc, on a fait des investissements importants de l'ordre du quart de million de dollars pour aménager la salle, pour en faire une salle de spectacle. Donc, cette salle-là, elle est opérationnelle. On a amené des équipements, on l'a aménagée, mais on a quand même un projet de déposer au ministère de la Culture pour en faire une salle de spectacle beaucoup plus complète avec la technologie, avec les foyers d'accueil, avec tout ça. Et donc, ce projet-là de transformation de l'église, ça va aller avec la séquence d'argent disponible au ministère de la Culture et aux autres partenaires. Donc, c'est un projet qui est en cours, mais qui va prendre un certain temps à développer. En parallèle, le projet d'auberge à côté, de transformation de l'école, pour en faire aussi un centre d'hébergement pour des résidences de création, de l'hébergement touristique, de l'hébergement pour les travailleurs saisonniers. Donc, le projet est encore le même, mais celui-là, il a fallu aussi retourner à la table à dessin, parce que entre le moment où on a déposé la demande de subvention, on se souvient de l'annonce qui a eu lieu en juin 2022, où on annonçait une subvention de 2 millions pour développer ce projet-là d'hébergement touristique. Or, ce 2 millions-là, pour le verser, était conditionnel à ce qu'on complète le financement dans l'année qui suivait, chose qu'on n'a pas malheureusement réussi à faire. Donc, la subvention n'a jamais été versée. La subvention est restée au ministère du Tourisme, elle est allée ailleurs dans d'autres budgets. Donc, on est retourné un petit peu à la case départ pour ce projet-là. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau partenaire qui est rentré dans l'organisation au pied des Demoiselles pour m'aider à développer ce beau projet-là. Et on est en train de revoir la formule en lien avec les conditions économiques actuelles. Donc, il se développera probablement en deux phases. Une première phase pour être capable d'en construire une partie, puis une deuxième phase en fonction des moyens qui sont déployés et surtout des conditions, encore une fois, économiques. Je rappelle encore que quand on a déposé ce projet-là il y a 2 ans et demi, on était au sortir de la pandémie, on s'enlignait à presque 80 000 visiteurs aux îles. On avait des perspectives extrêmement bonnes en termes de développement touristique hors saison. Donc, on sait qu'il y a, il y a quand même une problématique aux îles de service tôt dans la saison, à l'automne, à l'hiver. Et c'est pour ça qu'on continue de croire que notre projet est un projet extrêmement porteur parce qu'il vient contribuer à augmenter ces services-là aux îles. Cependant, il faut prendre le temps de refaire, les séquences pour s'assurer que le modèle d'affaires fonctionne. Parce qu'un modèle d'affaires sur 3 mois d'achalandage, de bon achalandage, 3 autres mois d'achalandage moyen, puis le reste de l'année d'achalandage un peu plus faible, c'est possible. Mais si la saison touristique est concentrée comme actuellement uniquement sur 2 mois, 2 mois et demi, il faut s'assurer que ce qu'on construit correspond aux besoins. Même si on n'a pas réussi à boucler le financement pour être capable de lancer la construction comme on aurait souhaité cette année, Que ce soit le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, les banquiers, toutes les institutions autour, tout le monde croit encore au projet, sauf qu'ils nous disent « retournez à vos chiffriers puis assurez-vous qu'un modèle d'affaires en fonction de l'achalandage touristique aux îles fonctionne, puis on va vous suivre dans le projet après ça. »
Est-ce que c'est le modèle d'affaires qu'on doit revoir, M. Pinchot, ou peut-être réduire un peu la taille du projet qui est quand même assez ambitieuse?
Quand tu revois le modèle d'affaires, est-ce que le nombre d'unités d'hébergement est bon? Est-ce que le coût de construction par porte est le bon? Est-ce que les espaces qu'on avait prévus pour l'accueil d'artistes, pour l'accueil de résidences de création, pour l'accueil d'activités communautaires, est-ce qu'on est capable de financer ça? La problématique, elle est surtout, est-ce qu'on va être capable de les louer, ces unités-là, au mois d'avril, au mois de mai? Est-ce qu'on va être capable de les louer? Ça va être quoi le taux d'occupation à partir du mois de novembre? C'est plutôt ça les questions qui sont les plus importantes, parce que pendant l'été, il n'y a pas de problème. Est-ce que les îles ont suffisamment d'outils et de services pour développer le tourisme? Et les travailleurs aussi hors saison, parce que notre projet il est aussi basé sur le fait d'attirer des gens qui vont être intéressés à s'installer aux îles pour quelques semaines, voire quelques mois, pour des temps de travail. On continue à être convaincu que le projet est très viable. Il faut juste que, encore une fois, d'un point de vue économique, l'investissement versus le potentiel de juste récupérer cet investissement-là, parce que le but, c'est de faire un leg aux îles, c'est de créer quelque chose aux îles et sur l'île de Havre-Vert pour revitaliser tout le secteur autour de l'église.
Est-ce qu'on considérait, par exemple, transformer une certaine partie des unités qu'on voulait louer pour du tourisme ou des travailleurs, bien, peut-être à faire des logements à l'année pour les résidents, en fait, du secteur?
Oui, ça fait partie du projet, absolument. Après, justement, on est dans le cœur du problème. Construire des logements à l'année avec les coûts de construction, c'est minimum 20 % de plus qu'à n'importe où ailleurs au Québec. Et après ça, l'autre problème important qu'on a particulièrement sur ce site-là, c'est qu'on n'est pas branché au système municipal d'épuration des eaux, là, des égouts. Donc, il faut calculer dans nos coûts de construction une usine d'épuration des eaux. Donc, si on était branché sur le système municipal, ça serait une toute autre histoire. Donc, ça aussi, c'est une autre difficulté qu'il faut faire face. Mais on y croit toujours. Puis, ce qu'on est convaincu avec le nouveau partenaire qui entre aussi, c'est qu'on est capable d'aller chercher un groupe d'investisseurs plus large pour être capable de mener à bien ce projet-là.
Est-ce qu'on peut nommer ce nouveau partenaire qui est public ou privé?
Non, on ne peut pas le nommer maintenant, malheureusement, mais maintenant, jusqu'à l'hiver prochain, il faut être capable d'élargir ce groupe d'investisseurs, puis d'être capable de faire un point environ à ce moment-là, l'hiver prochain, sur le développement du projet. Dans le fond, l'idée, c'est de se donner plus ou moins 6 mois à partir de maintenant pour constituer ce groupe-là, en plus de ceux qui sont déjà autour de la table. Et l'autre 6 mois pour redessiner le projet, pour qu'il se fasse en étapes, pour être capable, à partir du printemps prochain, d'avoir un projet déposé qui soit redessiné. Et là, je ne peux pas donner de calendrier d'échéance de construction parce que ça fait déjà... Il y a tellement de facteurs à considérer. Mais en tout cas, le projet est toujours bien en vie, sauf qu'il est en mode, on réfléchit de nouveau, on s'assure que le modèle fonctionne, puis on prend le temps qu'il faut pour le construire.
La dernière fois qu'on s'était parlé, on visait là, globalement une complétion du site là, de bout en bout en 2026. Ça nous amènerait où, M. Pinchot?
Bien, c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais c'est sûr qu'on est plus loin, c'est sûr qu'on est plus loin que ça. Mais je ne peux absolument pas me convaincre maintenant. Comme je dis, la première étape, c'est de rassembler le groupe d'investisseurs privés. Ensuite, de retourner à la table à dessin pour faire un projet qui fonctionne économiquement parlant, avec les conditions du marché. Et surtout en relation avec quelles sont les prévisions d'achalandage touristique au cours des 3 prochaines années, puis on va bâtir là-dessus.
La dernière fois qu'on s'était parlé, on estimait le coût à près de 20 millions, ce qui était déjà un bond de la précédente estimation. J'ai de la difficulté à croire que la facture n'aurait pas encore grimpé cette fois-ci, M. Pinchot.
Impossible de parler d'argent à ce stade-ci, tant qu'on ne s'est pas assis avec le nouveau groupe qui va être autour, puisqu'on n'a pas réfléchi bien. Avec tous les partenaires qu'on veut mettre autour de la table. Ça va être appelé à être actualisé. Je ne sais pas dans quel sens.
Sur le terrain, on constate qu'il y a encore peut-être des petites choses à terminer du côté de l'ancienne église, notamment la flèche et la façade. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là aujourd'hui, M. Pinchot?
Bien, on ne peut rien dire dans le sens que ça, c'est des choses qui étaient là avant qu'on prenne possession de l'église. Les pierres, malheureusement, qui allaient là, entre le moment où on est arrivé, puis le moment où la façade s'est écroulée, il y a quand même un certain nombre de pierres qui ont disparu. de reconstruire avec ces pierres-là, c'est impossible. Par contre, dans le projet de restauration, il y a des belles propositions, mais ça, c'est quand l'ensemble du projet va se financer qu'on va pouvoir adresser ça. Pour ce qui est de la flèche, bien, la flèche, c'est quand il y a eu la tempête Fiona, elle a fait crochir le mât, puis comme il n'y avait aucune assurance liée à ça, il n'y avait aucune compensation possible. Donc, on a été obligé de l'enlever, puis tant qu'on n'aura pas un projet de construction financé, bien, pour l'instant, on va vivre avec la situation comme elle est là.
Et donc, pour le moment, M. Pinchot, vous maintenez votre vision, vous maintenez donc l'idée de continuer à développer ce secteur de Havre-Aubert. Êtes-vous toujours aussi convaincu que votre vision du projet s'ancre dans les besoins de la communauté?
Oui, absolument. Je suis toujours aussi convaincu de ça. Puis, quand vous dites les besoins, bien, faut s'assurer qu'en dehors de la saison touristique, comment le lieu peut vivre, puis est-ce qu'il peut vivre toute l'année ou une partie de l'année. C'est ces analyses-là qu'il faut compléter. Quand j'en parle autour, quand on discute avec différentes personnes du milieu, je pense que le projet est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est pas la question à savoir si la vision du projet est bonne pour le Havre-Aubert. Je pense que ça fait pas de doute. La question est comment est-ce qu'on peut financer un tel projet avec la situation économique qui est celle des îles.
En terminant, Justin, petite mention aussi d'un autre spectacle qui est mis sur pied tout récemment, mais cette fois-ci du côté de Montréal, en fait, dans les studios du Cirque Éloise à la gare d'Alousie. Spectacle immersif 360 degrés intitulé « Bon voyage » qui raconte donc quand le premier train est parti de Montréal en direction de Vancouver en 1885. Bref, tout un dossier à suivre du côté du Cirque Éloise et du projet Au pied des Demoiselles.
Merci beaucoup, Laurence, pour ces informations.